Bonjour à tous. Je m'excuse déjà pour ceux qui étaient à l'Assemblée générale la semaine dernière, parce que je vais reprendre la méditation que j'ai partagée et qui a suivi un parcours un peu particulier en termes de cheminement dans mon esprit. Donc j'aimerais partager avec vous un passage de l'Écriture. On va, voilà, méditation sur un texte particulier. Il y a 5-6 semaines à peu près, je fais ce que certains peuvent considérer comme un acte du quotidien. Je me suis dit, tiens, ça fait au moins 15-18 ans que je me suis désengagé de la médiathèque de Kevin, parce que je trouvais que la contrainte de prendre des livres, les ramener, respecter les règles, recevoir un mail qui me dit « Écoutez, vous n'avez pas encore rendu vos documents, cherchez tous les documents dispersés dans toute la maison », ça me fatiguait. Donc il y a 15 ou 18 ans, j'ai renoncé. Puis comme mes livres, les livres que j'utilise dans ma vie quotidienne sont des livres qu'on ne trouve pas forcément à la médiathèque, ça ne me manquait pas trop. Puis quand même, là, est-ce que c'est la retraite, l'âge aidant, j'ai voulu avoir peut-être d'autres documents, de la musique un peu différente. Donc je me suis réinscrit et il y a 5-6 semaines, à la médiathèque de Kevin, je suis allé chercher mes premiers documents. Alors maintenant, on a le droit à 12 documents, je crois, répartis entre Kevin, Pons-Korf, Gestel. Et je dis, il faut une remorque pour prendre ces documents, les prendre et les ramener. Et donc, je suis allé chercher mes documents. Et puis, la deuxième fois, je les ai ramenés en temps et en heure. Et j'ai déposé mes documents maintenant avec une nouvelle technique. On passe devant une table, on pose ces documents un par un, ça enregistre. Je dirais, il n'y a même plus besoin de bibliothécaire. Le métier va être en voie de disparition. Elisabeth, fais attention. J'ai une fille bibliothécaire, donc, et elle est là. Et puis, ensuite, je suis allé chercher mes ouvrages. Et j'ai un itinéraire. Je passe d'abord par la musique classique, le jazz, partie un petit peu vidéo. Puis ensuite, je traverse la médiathèque. Et là, direction... Le rayonnage livre recettes de cuisine du monde. Voilà, c'est mon itinéraire. Ensuite, je bifurque à gauche, j'arrive au rayon poésie, passage obligatoire et systématique, et puis ensuite, éventuellement, un document annexe. Et puis, j'étais sur cet itinéraire, et tout à coup, en allant vers le rayon cuisine, recettes, du coin de l'œil, je vois rayonnage spiritualité. Bon, comme c'est souvent des livres qui touchent à l'islam, au bouddhisme, éventuellement aux grandes figures du catholicisme, je m'arrête pas obligatoirement. Puis du coin de l'œil, je vois un mot, c'est la Bible, mais en grand, sur un livre en grand. Et là, tout à coup, mon cerveau a fait tilt. Vous savez, il y a des réflexes comme ça. Je me dis, c'est quoi ça? On parle de la Bible, la bibliothèque de Kevin. Alors, je vais vous montrer le document. Celui-ci. J'étais parti chercher mes documents en vélo. C'est important. J'ai regardé le livre. À peu près une épaisseur comme ça. J'ai pesé le livre. Une fois arrivé à la maison, 2,1 kg. Il faut avoir envie. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bible, c'est même pas la Bible, Bible, et les récits fondateurs. Et en fait, avec plein de petits dessins, d'illustrations comme ça, faites par Serge Bloch et Frédéric Boyer, aux éditions Bayard. Je vais quand même, par curiosité, essayer de voir de quoi il en retourne, de quoi ça cause. Et donc, j'ai pris ce bouquin, bon, 2,1 kg, je faisais mon sport en même temps, je l'ai posé sur un coin de table et je l'ai ouvert au hasard. Et le sous-titre de ce livre, c'est « Les récits fondateurs ». Alors je me dis, mais qu'est-ce que ça peut être que ces récits fondateurs? J'aime beaucoup cette notion-là, les récits fondateurs. C'est comment l'Écriture nous donne des fondements pour nos vies personnelles et aussi des fondements pour la vie de l'Église, pour l'histoire, non seulement, mais le cheminement que nous avons à emprunter, les récits fondateurs. Et je l'ai ouvert au hasard. Et je suis tombé sur un récit, je dis, mais qu'est-ce que ça fait dans les récits fondateurs ? Alors ce récit, j'ai envie de dire, m'a surpris, parce que c'était vraiment pas dans, j'ai quelques 40, non 50, que le temps passe vite, 50 ans de lecture de la Bible derrière moi. Et je me suis dit, je connais à peu près les grands textes fondateurs de la foi. Et je connais aussi tous les personnages qui, dans la Bible, sont des individus qui ont marqué l'histoire de la foi au titre de Hébreux, hein, à l'Épître aux Hébreux. Et si je vous demandais, allez, vous avez sur trois personnages possibilité d'en choisir deux. Et dans la manière de s'exprimer de l'Ancien Testament, on parle souvent de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Si je vous posais la question sur les trois, vous avez la possibilité d'en choisir deux en vous disant « J'aimerais que l'expérience, le parcours de vie, la démarche spirituelle de celui-là, ce soit aussi la mienne. » Allez, je vous donne le choix entre Abraham, Isaac et Jacob. Vous avez droit à deux, hein, sur les trois, voire un si vous n'avez qu'un. Qui se dit « Moi, j'aimerais bien avoir... » Vivre l'itinéraire de Abraham. Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui se dit, moi, je préférerais avoir l'itinéraire d'Isaac. Aucun. Une. Ah ouais, mais... qui se dit, c'est Jacob, moi, mon modèle. 1, 2, 3, 4, 5... Oui, moi, je me mets dedans, 6, ouais, d'accord. Eh bien, quand j'ai ouvert ce grand livre, les récits fondateurs, je suis tombé sur une page qui parlait d'Isaac. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? En quoi Isaac peut nous proposer par sa vie, ou l'Écriture peut-elle nous proposer par la vie d'Isaac quelque chose qui soit un récit fondateur ? Pour moi, Isaac a toujours été... un personnage, je le disais samedi à l'Assemblée générale, un personnage phallo, c'est-à-dire un personnage qui manque d'épaisseur, un personnage qui, je dirais, est un être passif. Je disais souvent que si on résumait le parcours de vie d'Isaac, c'est un, il a été ficelé et mis sur un autel pour y être sacrifié. Deux, son père a envoyé son serviteur pour aller chercher sa femme Rebecca. Trois, il se fait... trompé par son fils Jacob pour récupérer la bénédiction. Qu'est-ce qu'il y a de fondateur dans la vie d'Isaac ? En quoi est-ce qu'il est un modèle ? Alors bien sûr, dans la manière de s'exprimer d'Israël et des sages, on dit toujours nos pères et les promesses qui leur ont été faites, Abraham, Isaac et Jacob, voilà l'origine du peuple de Dieu. Mais... votre vote, quant à vivre des choses, c'est Abraham et Jacob. Mais Isaac, en quoi est-il important ? Et quand j'ai ouvert ce livre, je l'ai entrouvert et je suis tombé sur un dessin. Et ce dessin présente dans la Bible les récits fondateurs et ça s'appuie sur le chapitre 26 de la Genèse. Parce que vous pouvez... chercher beaucoup de chapitres qui parlent d'Abraham, beaucoup de chapitres qui parlent de Jacob, mais le seul chapitre qui parle véritablement d'Isaac, c'est le chapitre 26, et encore pas tout entier. Mais le chapitre 26 a pour titre dans ma Bible Isaac dans le pays des Philistins. Et ici, quand j'ai ouvert ce livre, je suis tombé sur cela. Partout où il passe, Isaac retrouve les puits qu'avait creusés son père Abraham. Chaque récit fondateur fait l'objet d'environ une ou deux pages, ça veut dire trois petits dessins. De cette nature-là, vous savez, c'est des dessins très simplistes, on pourrait presque dire des dessins de journaux, vous savez, pour illustrer un article. Et c'est très simple, mais du coup, ça m'a frappé. Ce n'est pas une bande dessinée. Et ça a commencé par Partout où il passe, Isaac retrouve les puits qu'avait creusé son père Abraham. Et du coup, ça m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, je ne m'étais jamais arrêté à ce que Isaac, par son parcours de vie, fonde des vérités spirituelles qui nous concernent aujourd'hui. Si vous vous référez au chapitre 26 de la Genèse, il est dit qu'il y a eu une famine dans le pays, que, outre la première famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham, Isaac alla vers Abimélech, le roi des Philistins. On est là, dans la région de Guérar, dans le pays des Philistins, avec, je dirais, l'adversité, le monde dans lequel le peuple de la promesse, dans la personne d'Isaac, se trouve implanté, et un échange entre Isaac, celui qui incarne les promesses de Dieu, et l'adversité qui se trouve dans le monde. Alors, il est dit au verset 12 qu'Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus au point d'être vraiment fort riche. Il avait un cheptel de petits, un cheptel de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins devinrent jaloux de lui. En fait, le chapitre 26 nous montre la manière dont Isaac a bâti et construit sa vie sur la base des promesses qui avaient été faites à son père. Et alors, au verset 16, il dit qu'Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans le vallon de Guérar où il habita. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'avait creusés du temps de son père, Abraham, et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il les appela des mêmes noms dont son père les avait appelés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans le vallon et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Il donna donc au puits le nom d'Essec, parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Il leva le camp et de là, et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beer-Sheba et l'Éternel lui apparut cette nuit-là et lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, sois sans crainte, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. Isaac bâtit là un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et les serviteurs y creusèrent un puits. Abimélec se rendit auprès de lui depuis Guérar avec Ahuzat, son ami, et Picol, le chef de son armée, et Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous auprès de moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons bien que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, c'est-à-dire entre toi et nous, et concluons avec toi une alliance, en vertu de laquelle tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous ne t'avons fait seulement que du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix, toi qui maintenant es béni de l'Éternel. » Alors, quand j'ai lu ce texte, j'ai vu ce premier dessin, et que j'ai vu au-dessus Bible, le récit fondateur, le nombre de fois où dans la Genèse j'ai pu prêcher sur le parcours d'Abraham, la manière dont il a quitté Ur, comment il est rentré dans les promesses de Dieu, le nombre de fois où j'ai lu la vie d'Abraham et celle de Jacob aussi, et que véritablement j'y ai trouvé des principes spirituels, vraiment des principes spirituels qui aujourd'hui encore nous disent voilà comment nous devons rentrer dans notre terre promise, dans les promesses de Dieu pour notre vie ou pour l'Église. Jamais je m'étais vraiment arrêté, je crois que j'ai jamais prêché sur Isaac, sinon sur la ligature d'Isaac. Mais là, il est un acteur passif et on est à nouveau avec un regard centré sur Abraham. Mais là, tout à coup, si les auteurs considèrent que ce passage est un récit fondateur, en quoi l'est-il ? La première chose que nous constatons, c'est que tout le fonctionnement, le parcours de vie d'Isaac est révélateur de principes spirituels qui nous concernent, nous aussi, aujourd'hui. La première chose que l'on voit, c'est que Dieu a donné des promesses à Abraham. À 99 ans, il lui dit « Tu seras père et père d'une grande nation ». Ça a fait rigoler sa femme, lui aussi, en doutant que Dieu puisse accomplir cette volonté. Et pourtant, malgré les vicissitudes, malgré les tentatives détournées pour que la promesse de Dieu s'accomplisse au travers d'une servante, eh bien, Isaac est né. Et les promesses de Dieu se sont mises en route. Parce que quand Dieu promet, il agit. Et si notre foi est conforme et s'aligne sur les promesses de Dieu, alors la volonté de Dieu s'accomplit à la fois pour l'Église, à la fois pour nos vies, et j'ai envie de dire à la fois pour le monde. Mais quand Abraham meurt, qu'en est-il ? Eh bien, il est dit que les Philistins furent jaloux d'Isaac, ils comblèrent avec de la terre tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés du vivant de celui-ci. Un des premiers principes spirituels, c'est que quand Dieu s'adresse à un homme, à une femme ou à l'Église, l'adversaire n'aura de cesse que d'étouffer ses promesses. Et quand le temps passe et qu'on passe d'une génération à une autre, l'adversaire n'a de cesse que de combler les puits qui ont été creusés, c'est-à-dire ces espaces où l'on peut vivre, s'abreuver et vivre pleinement. Les ennemis d'Isaac et de son père Abraham veillent à ce que l'héritage et les promesses qui sont attachées à la vie d'Isaac soient étouffées. Rappelez-vous ce passage des promesses de Dieu à Abraham. « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, car en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Ça, c'est la parole que Dieu adresse à Abraham. Hein ? C'est ce qu'il lui dit. Voilà ce qui va se passer. Voilà pourquoi je vais me révéler à Abraham. Est-ce que je vais lui cacher alors qu'il va devenir cela ? Ça, c'est un principe spirituel. Dieu se révèle sur la base des promesses qu'il dépose dans nos vies, qu'il dépose dans l'Église. Il y a des promesses qui sont faites à l'Église. On a vu, quand il y a eu l'installation de Christine il y a quelques semaines, on s'est référé à une prophétie qui avait été donnée par Luc le Prévôt en 1995. « Voici, dit Dieu, ce que j'ai en prévision pour votre Église. » Et nous arrivons 28 ans après, nous disons « Ça, c'est des promesses que Dieu nous a faites. Nous voulons qu'elles s'accomplissent. Alors, nous allons les mettre en pratique. Nous allons garder les voies, alors j'ai les voies de l'Éternel, mais les voies aussi, la voie de l'Éternel, V-O-I-X, nous allons les garder et nous dire, nous allons construire là-dessus. 28 ans après, on installe une femme comme ancienne, et il y aura certainement d'autres appels, là aussi, que nous honorerons dans l'Église. En pratiquant le droit et la justice, Abraham a vécu cela. Et donc Isaac se trouve confronté à l'œuvre de l'adversaire qui est là pour boucher ce qui a été accordé. Un puits dans ces régions-là, c'est quelque chose d'essentiel. C'est ce qui permet de vivre et de survivre. Tout dépend de cela. Mais j'ai envie de dire, dans l'Église ou dans nos vies personnelles, quels sont les puits qui sont des puits de révélation, des puits d'eau qui peuvent nous permettre de nous tenir debout. J'ai été attentif à toutes les prières ce matin. Qu'elles étaient belles, ces prières qui disaient à Dieu ce qu'il était. Tout ce qui a été dit, ce sont des puits qui ont été creusés dans des cœurs et dans des vies individuelles et qui disent ce que Dieu est pour moi. Je le dis et je partage cette eau vive. Le rôle de l'adversaire, au regard des promesses qui reposent sur nos vies, c'est de combler ce qui a été creusé. La volonté de Dieu pour nos vies, pour l'Église, c'est de combler. J'aime beaucoup ce mot français. Il est dit ici dans ce passage qu'ils comblèrent avec de la terre tous les puits d'Abraham. Ce que Dieu veut, c'est nous combler, nous. Le même mot dit à la fois boucher et remplir de bénédictions, combler. Remplir et satisfaire les besoins du cœur, de la vie. Est-ce que vous êtes comblé? Ah, je vois un sourire, une tête qui hoche, il dit oui, moi je suis comblé. Un petit sourire en coin. Ouais, c'est comblé? Oui, ça y est, ça va. Il y en a, on sent qu'ils sont comblés. Hein? Est-ce que vous êtes comblé? Comblé de quoi? C'est soit de la terre, des choses qui occulte toutes les promesses de Dieu, soit on est comblé de la bénédiction de Dieu qui enrichit véritablement et qui satisfait le cœur. Le rôle de l'adversaire, c'est de recouvrir de terre, de nature inerte, la vie de Dieu. Ah, le fondement de la vie d'Isaac est dans le seul dialogue entre lui et son père. Vous savez que si vous lisez la Genèse entre Isaac et Abraham, il n'y a pas beaucoup de discussions. Il y a juste une phrase. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. C'est la seule discussion dans la Bible entre Isaac et Abraham. On se dit, waouh ! Ils sont en train de marcher vers la montagne. Abraham a cet ordre, sacrifie-moi, donne-moi ton fils. Et puis il y a Isaac qui dit, on a oublié la viande pour le barbecue. Qu'est-ce qu'on fait ? T'inquiète pas, Dieu va pourvoir. Ah bon, d'accord. C'est tout ce qu'on sait. Mais je trouve que finalement, c'est bien un texte fondateur. Parce que Isaac, il a vécu quelque chose qui est de l'ordre de la grâce. Lorsqu'il est arrivé et qu'il a été ligaturé sur l'autel, Dieu a pourvu en donnant un animal dont les cornes étaient prises dans les buissons. Il a vécu de manière concrète la grâce de Dieu. Les promesses de Dieu ne reposent pas sur autre chose. Aujourd'hui, si je suis là présent, c'est parce que moi aussi, je peux dire comme Isaac, Dieu a pourvu. Je méritais de mourir. Dieu a pourvu. J'étais hier, après cette journée de travail ici, à préparer au baptême une jeune femme par Zoom, là. On a fait quelques séances et on abordait la question de Jésus, il est mon sauveur, oui, d'accord, est-ce qu'il peut être aussi, il doit être mon Seigneur? Et en fait, on a développé pendant une bonne heure cette pensée. Est-ce que je vis le fait que par grâce il m'a sauvé? Et une fois que j'en suis là, je m'arrête. Et ne vais pas plus loin. Isaac aurait pu s'arrêter là. Le fait qu'il creuse les puits de son père dit qu'il est conscient des promesses qui ont été faites à Abraham, qui sont des promesses qui doivent être vivantes. Non, qu'il enlève la terre des puits d'Abraham. Mais être Seigneur, c'est de se dire, est-ce que dans ma vie personnelle, ma relation avec mon Père céleste repose aussi sur une autorité qu'elle a le droit légitime de revendiquer sur ma vie. Je veux aussi qu'il soit mon Seigneur. Oui, ne t'inquiète pas, mon fils. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et le sacrifice de Christ, c'est pour Isaac, dans cet agneau qui est posé sur l'autel, le signe de la grâce et de quelque chose qui le concerne. Pas simplement des promesses de son père, mais des promesses et de l'œuvre qu'il a accomplie dans sa vie, jour après jour. je ne vais pas déboucher que les puits de mon Père. Christ n'est-il pas celui qui est fait promesse pour nous afin que la volonté de Dieu dans nos vies s'accomplisse ? Que ce qui a été promesse de devenir advienne. Quelles sont les promesses que Dieu a déposées dans ta vie quand il a pourvu ? Et quels sont aujourd'hui les choix, les positions, les attitudes de cœur et de vie qui vont faire que les promesses de Dieu adviennent dans ta vie, dans ma vie ? Isaac creusa les puits de son père Abraham et les appela du même nom que son père les avait appelés. J'aime beaucoup cette notion-là. Abraham a débouché tout ce que l'adversaire va essayer de combler. Et il a redonné à ces puits le nom qu'ils avaient été donné par Abraham. Je pense que dans l'Église, depuis plusieurs siècles, il y a des puits que nous avons toujours et encore besoin de mettre à jour. Nous intervenions avec Michel et Nicole au groupe œcuménique de Bretagne il y a 15 jours. Et j'intervenais sur la place de la parole pour les évangéliques. Je trouvais que les positions qui étaient prises par certains protestants n'étaient pas celles que nous pouvons avoir. Donc j'avais dit, j'aimerais bien que les évangéliques disent quel est leur rapport à l'écriture et à la parole de Dieu, parce que nous considérons que ce livre, s'il n'est que fait que de papier, néanmoins, il contient la parole que Dieu adresse aux hommes pour pouvoir se révéler et leur montrer la route pour marcher dans le chemin du salut. Elle est parole de Dieu. Elle n'est pas simplement parole d'homme qui parle de Dieu, ce qui est une position que certains peuvent avoir. Donc on a pris le temps de proposer le regard des évangéliques sur cette question de la place de l'Écriture. Et cette place de l'Écriture, éminemment, nous parle de la volonté d'un Dieu qui veut rentrer en relation avec ses enfants, avec chacun de ses enfants. C'est-à-dire que quelque part, depuis au moins la Réforme, et certainement avant, les pères de l'Église sont aussi des personnes qui nous révèlent des choses de Dieu et qui nous concernent et auxquelles j'adhère. On a eu des citations par le père Irénée de Hilaire de Poitiers. Hilaire de Poitiers a un message tout à fait évangélique. Et d'autres pères de l'Église aussi. Quand on lit saint Augustin, on ne peut qu'adhérer à certaines de ces pensées qui nous disent Dieu. Alors à la Réforme, il y a eu un bouleversement et ce sont là nos racines, notre identité, nos pères. Quand Luther se convertit en tant que moine vivant dans un monastère, il découvre qu'il n'y a pas besoin d'utiliser des cilices, des fouets, etc. pour être sauvé, mais que nous sommes justifiés par la foi. C'est un puits. Une vérité vive pour nous aujourd'hui. Est-ce que cette vérité est dans ma vie un puits présent, vivant, qui abreuve mon existence? Je suis justifié par la foi. Pas besoin d'autre chose. Combien d'autres puits? Hier, dans la préparation au baptême, je me suis posé, tout à coup, je parlais de l'appel de Dieu sur la vie de la personne. Je me suis dit, mais quel est l'appel de Dieu sur ta vie? Et puis elle m'a partagé certaines choses, et je dis, bien, cet appel-là repose sur ta capacité à laisser le Saint-Esprit te conduire pas après pas pour dire des oui successifs qui rendent vivant l'appel de Dieu dans ton existence. Peut-être, attends. Bah finalement, oui. Et combien de vies sont arrêtées dans leur appel par les non? Je ne veux pas aller plus loin. Et à un moment donné, je lui dis, mais vraiment, ton appel repose sur la manière dont le Saint-Esprit t'ouvre le chemin et dont tu vas accepter la réalité. Puis tout à coup, je me suis dit, mais je ne t'ai pas posé la question, est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Puis on a eu tout un échange sur cette question-là. Baptisé du Saint-Esprit, en quoi non seulement l'Esprit-Saint, parce qu'on est conduit par le Saint-Esprit sans être baptisé du Saint-Esprit, mais comment mon service peut être développé avec des dons spirituels qui vont me permettre de rentrer pleinement dans le service, dans l'appel que Dieu a pour moi. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, demandez-le. Demandez à Dieu de vous baptiser de son Esprit Saint. Ça n'empêche pas que déjà maintenant, vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Quiconque dit Jésus-Christ est Seigneur ne peut pas le dire autrement que par l'Esprit. Mais est-ce que dans ton appel, dans ta vie de tous les jours, le baptême du Saint-Esprit ne peut-il pas être un puits ? Ça a été, au moment de 1905-1906, un puits que nos pères ont creusé. Vous savez qu'on ne parlait plus du baptême du Saint-Esprit, ou très peu, au niveau charismatique. Et puis tout à coup, à San Francisco et au Pays de Galles, dans les mêmes mois, il y a eu une éclosion du baptême du Saint-Esprit, une découverte du baptême du Saint-Esprit, des charismes, etc. Et ça a submergé le monde. Est-ce que c'est un puits qui vaut la peine d'être creusé ? Je vous laisse avec ça. Mais c'est un puits que nos pères ont creusé et ont découvert. Et puis, c'était en 1905, et puis une quinzaine d'années après, vingtaine d'années après, moi je pense que l'adversaire a fait en sorte que ce puits soit comblé en disant « Oh, mais ça c'est une expérience qui ne vaut que pour le début de l'Église au 1er siècle. Oh, est-ce qu'on a encore besoin de dons de révélation, de dons de puissance, de dons de guérison ?» Je ne sais pas, est-ce que c'est un puits qui vaut la peine d'être maintenu ouvert ? Il est dit ici en tout cas que dans la vie d'Isaac, il y a eu ce désir de nommer les puits de la manière dont son père les avait nommés. C'est-à-dire, quelque part, il n'invente pas des choses. Il dit, ça a été découvert par mon père, je leur donne le même nom. Et il y a une relation entre Isaac et Abraham qui est étonnante. Le respect. Le respect de ce que la génération précédente a reçu. Les relations dans une famille sont un lien qui est plus significatif, c'est un psychothérapeute qui disait ça, que les modèles transgénérationnels de la communication, ce sont les relations qui doivent tenir compte de la justice et de l'équité au sein de la famille. Et à travers ces relations, c'est la vie, leur vie que nous lèguent les ancêtres et que nous transmettons à la postérité. Isaac, il a transmis ce que son père avait reçu. Il y a un psychothérapeute, Ivan Besormeni-Nagy, qui est un psychanalyste que je lisais dans un livre d'Anne Ancelin Schützenberger. Je suis désolé pour les noms, ils ne sont pas simples, mais c'est leur nom. Et il dit, dans les pays de l'Est, en Europe centrale comme en Russie, chez les Slaves comme autour de la Méditerranée, la famille est un atome social très fort, un nid, un clan soudé, une matrice à partir de laquelle on se construit et on trouve son identité. Est-ce que nous trouvons notre identité d'enfant de Dieu dans la matrice qu'est l'Église et qui a reçu par les générations qui nous ont précédés des richesses et une identité ? Aujourd'hui, je suis très triste de voir que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils font partie d'une génération spontanée. Avant moi, il n'y avait rien. Mais depuis que je suis là, excusez-moi du peu, mais alors, je vous assure que ça va bouger, ça va déménager. C'est tout le principe des leaders, leadership, etc. Mais qu'est-ce que nos pères nous ont légué ? Et ce que dit Ivan Besormeni-Nagy, c'est cela. Alors, lorsqu'il nomme les puits du même nom, il dit « la révélation de la génération précédente, ce que nos pères ont reçu, il s'agit de le garder, de conserver cette identité. » Mais pas seulement par conservatisme, mais une fidélité à la révélation, à un message donné, donné et reçu à des promesses qui sont faites par Dieu. Respecter ce qui nous a été donné. Alors moi, j'aime beaucoup un grand poète persan qui s'appelle Omar Khayyam. J'ai plusieurs livres à la maison. Et je relisais un bouquin et tout à coup, je suis tombé sur ce qu'on appelle un quatrain. Et Omar Khayyam, qui vivait vers 1100, donc ce n'est pas hier, c'est avant-hier au moins, 1100. Et Omar Khayyam disait « Vieil homme, lève-toi à l'aube et considère là-bas ce jeune enfant qui chasse la poussière. Donne-lui des conseils. » Dis-lui de balayer doucement ce qui reste des rois de la terre. À la fois le respect de ceux qui nous ont précédés, la conscience qu'ils ont disparu, c'est-à-dire ils sont poussière, dit au jeune homme de balayer doucement ce qui reste des rois de la terre, mais sans oublier ce qu'ils nous ont légué. Ça parle du respect de ceux qui nous ont précédés. Mais notre vie ne doit-elle pas aller plus loin, ne pas se limiter à la préservation de ce qui nous a été transmis? L'autre slide, voilà. Si Isaac n'avait fait que creuser les puits de son père, il se serait privé d'être véritablement fondateur dans sa vie de choses nouvelles. Or, ce qu'il a fait, c'est qu'il est dit qu'il campa dans la vallée de Guérar, s'y installa, il fit déboucher les puits creusés par son père, et puis il leur redonna les noms, et ils allèrent dans la vallée, et ils découvrirent une source. Verset 19. Un jour, les serviteurs d'Isaac creusèrent un puits dans la vallée, et ils découvrirent une source d'eau vive. C'est-à-dire que quelque part, il a aussi creusé ses propres puits. Quels sont les puits qui, dans ta vie, doivent être creusés? Quelles sont les révélations personnelles que tu dois avoir à partir des promesses que Dieu a faites dans ton passé? Nos pères nous ont transmis des choses bonnes, parfois moins bonnes. Mais les sources qu'ils ont creusées dans l'Église, est-ce que nous pouvons les réactiver, en être conscients? Mais quelles sont aussi nos parts actives pour creuser des puits dans nos vies personnelles qui alimentent nos foies, notre foi? Tu es responsable de creuser des puits d'eau. Et d'ailleurs, dans le texte hébraïque, il est dit que c'est une source d'eau vive. Regardez dans vos Bibles, si vous les avez, parfois c'est simplement dit une source d'eau. Non, non, dans le texte hébreu, c'est haïm, haï, c'est-à-dire yermat, santé. Les Bretons sont comme les Juifs, santé, c'est-à-dire la vie. En breton, on dit santé, ça veut dire à la vie. Eh bien, et lorsque Yermat, c'est bonne santé, hein, mais c'est bonne santé dans la vie, quoi. Hein, et en hébreu, c'est l'achayim, à la vie. Même les maisons dans les cimetières à Montparnasse, par exemple, vous avez le carré juif, c'est Bet Chaim, c'est la maison de la vie. Eh bien, ici, il est dit qu'ils creusèrent un puits d'eau vive, un puits d'eau vivante. Quelles sont les sources d'eau vivante qui sont à creuser dans nos vies? Des révélations que Dieu veut déposer pour que je sois vivant. Pas simplement sur les eaux de mon père et de mon grand-père et de mon arrière-grand-père. C'est bien de les avoir. Mais quelles sont les révélations que Dieu veut me donner? L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Moi, je trouve que c'est une parole assez extraordinaire. Vous savez à qui ça s'adresse, là? Ça s'adresse à la génération qui est née dans le désert, après qu'Israël ait refusé d'entrer dans la terre promise, et qui se retrouve à nouveau devant la terre promise. Et là, il y a le livre du Deutéronome qui nous dit qu'arrivé devant la terre promise, Dieu a dit « Oh là, stop ! Stop ! Vous n'allez pas plus loin ?» Moi, j'aurais été dans le peuple d'Israël. Ça fait 40 ans qu'on est dans le désert. On mange de la manne tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. On en a ras-le-bol. Donc, on voudrait rentrer dans la terre où coule le lait et le miel. Non, non, vous arrêtez. Mais pourtant, Seigneur, on croit en toi. Non, non. Maintenant, effectivement, vous croyez en moi sur la base de ce que vos pères ont vécu. Mais maintenant, devant la terre promise, je veux que cette révélation devienne la vôtre. Je veux qu'il y ait un puits d'eau vive, vivante dans vos vies. Que ce ne soit pas la foi de vos pères, mais votre foi à vous. Le Deutéronome, c'est ça, hein, c'est la répétition de la loi à la nouvelle génération. Qu'est-ce que Dieu veut déposer dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut te révéler qui soit quelque chose que tu portes en toi, tes propres puits? Est-ce que tu es prêt à creuser tes propres puits pour que Dieu se révèle ? L'Achaïm ! À la vie ! À la vie que je découvre, jour après jour, son Esprit Saint me conduit dans des chemins de vie. Ah, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est Christ qui dit cela à la Samaritaine. Ouais. Heureusement, c'est juste à la Samaritaine. Il ne faudrait quand même pas qu'il exagère et qu'il nous le dise à nous. Hein ? Si tu savais celui qui peut te donner de l'eau vive, alors tu le lui demanderais. Et c'est ce qu'il fait. Jour après jour dans notre vie, la relation avec Dieu, c'est une relation qui vise à faire que de l'eau vive puisse être découverte régulièrement pour que je sois vivant. Moi, j'aime beaucoup, j'envie beaucoup l'Église réformée à Lorient. Vous savez pourquoi ? Elle est située boulevard de l'eau courante. Si c'est pas de l'eau vive, ça... Alors, je sais pas ce qu'ils en font après, mais... Moi, je regrette qu'on soit pas... On pourrait pas déménager, Michel ? On rachète leurs locaux, on les repeint. Michel y est allé quand il était tout jeune, c'est ça ? Est-ce que nous sommes prêts à chercher là aussi, au-delà des sources de nos pères, les sources que Dieu veut révéler en nous ? Isaac ne s'est pas contenté de rester sur les sources du passé. Et là, c'est un danger de ne vouloir cultiver que le passé. Il y a un mouvement pentecôtiste qui est en train d'essayer de prendre la place. Et ils ont dit, bon... Dans l'Église, il faut arrêter hein, tous les cantiques nouveaux, les trucs qui viennent des États-Unis, etc. Non, nous, on est centrés sur des cantiques qui disent la parole de Dieu et on a conscience qu'après les années 50, il n'y a rien qui a été véritablement proposé qui soit saint. Donc, on reste sur les cantiques des années 50, les puits de nos pères. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit peut inspirer la louange et l'adoration. Est-ce qu'on doit uniquement être dans cette logique-là ? Lorsqu'il a... Non, tu peux revenir sur la précédente. Lorsqu'ils ont commencé à creuser à Guérard, les serviteurs se sont vus confrontés aux bergers de Guérard, c'est-à-dire qu'ils sont là où Dieu les veut, mais autour d'eux, il y a les Philistins à Guérard. Et donc, de ce fait-là, lorsque eux creusent leur puits... Les habitants du coin disent « C'est à nous ! Poussez-vous de là !» Et donc Isaac a appelé cette source-là, ce puits Essex, qui veut dire « querelle », parce qu'il lui avait cherché querelle. C'est un principe spirituel, c'est un récit fondateur, parce que lorsque l'homme, l'individu, homme ou femme, creuse des puits pour chercher la révélation de Dieu, l'adversaire n'aura de cesse dans vos vies personnelles de vous chercher querelle. Le meilleur moyen de ne pas être ennuyé par l'adversaire, c'est surtout pas de creuser pour connaître la pensée de Dieu, pour être confronté à sa révélation, pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans des chemins nouveaux. Si vous ne faites pas ça, je vous assure, vous serez tranquille. Je ne sais pas si vous serez béni, mais les attaques seront moins nombreuses. Isaac, dès qu'il a commencé à creuser de nouveaux puits, les adversaires se sont... positionné. Et ils ont creusé un autre puits, il y eut encore une dispute à son sujet, Isaac appela ce puits Sitna. Sitna. Ça vous dit quelque chose, Sitna ? Non ? C'est une, en hébreu, on appelle ça une racine trilitaire. Tous les mots sont classés par famille de racines trilitaires, c'est-à-dire avec les trois mêmes consonnes. Ici, on doit être sur le shin, le tav et le nun. Ça vous en dit pas plus, hein. Ouais, je sais bien. Excusez-moi. Comme je connais un tout petit peu l'hébreu, c'est le seul moment où j'ai le moyen de l'avancer un petit peu, de l'étaler. Vous connaissez un mot qui est de la même, qui est dans cette racine trilitaire, Shin Tav Nun, Shatan, Satan, l'adversaire. Quand il y a une dispute sur ce, il dit, voilà, il y a de l'adversité. C'est un principe spirituel. Vouloir marcher avec Dieu, c'est être confronté à l'adversité, à Satan. Je ne suis pas à voir des diables et des démons, mais l'adversaire est vraiment là. Il est là pour empêcher la bénédiction de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Que faisons-nous ? Ça ne nous empêche pas de creuser, de continuer, mais de savoir où est l'adversaire, sur quoi il veut nous confronter, nous empêcher d'entrer dans ses promesses. Alors, puis querelle, il y a de l'opposition avec l'adversité, avec l'adversaire. Le suivant, on le voit, c'est le puits de la liberté. Et il est parti de là, creuser un troisième puits. Celui-ci ne provoqua pas de dispute. Il l'appela Rehoboth. Il disait en effet, « Le Seigneur nous a mis au large pour que nous prospérions dans le pays. » La pensée de Dieu, c'est que, quelles que soient les adversités, de continuer à creuser ce qui est juste pour nos vies. Quels sont les espaces de liberté que Dieu nous accorde pour être au large, pour être bien? La pensée de Dieu, c'est que nous soyons dans une possibilité de nous reposer en lui. Celui qui croit en moi, dit l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 38, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alors, des fois, on se dit, ouais, je suis tellement fatigué, tellement usé, tellement face à l'adversité. Pas l'impression d'être une eau vive, hein. Ou alors, quelques gouttes peut-être de temps en temps. Des fleuves d'eau vive, parce que la source est en Christ et Christ est en moi. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Sois transporté d'allégresse, pousse des cris de joie, il est juste et victorieux. C'est cela, là aussi, le fruit de cette eau vive qui coule en nous. Cette eau vive manifeste la joie du salut profonde. Paul dira à un autre moment, « Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est-à-dire que l'adversaire peut venir, mais nous sommes au large parce que le salut de Dieu est sur notre vie. Amen. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobre, veillez, mais réjouissez-vous parce que le salut qui est en vous est source de vie. Ésaïe 54, 2, élargis l'espace de ta tente, étends tes cordages, élargis-toi, creuse de nouveaux puits dans ta vie, afin que la révélation de Dieu te montre l'étendue de son salut, te montre aussi ton appel, ce à quoi tu es servi, te permette de vivre des victoires. Mort, où est ton aiguillon ? L'adversaire vise à ce que le terrain que nous occupons, nos vies personnelles, soient des terrains sans puits, sans vie, sans eau vive. Mais l'eau vive, c'est le Christ. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Tu es appelé à être vivant, à ce que des puits d'eau vive soient en toi et te permettent de renouveler ta vie, à te mettre au large. C'est ce qu'il est dit, hein, dans cette rencontre avec ces puits, mais aussi avec l'adversaire qui viendra faire des serments derrière. Passons un serment. Et le monde, quand il voit l'Église qui est vivante, il dit, bon, on ne va peut-être pas trop leur casser les pieds. Hein, on va essayer de faire avec. Le monde, finalement, s'il voit que Dieu est là et bénit l'Église et bénit les croyants, il dit, bon, bah, on va essayer de faire un serment avec eux parce que bah, ils prospèrent. Sont mis au large. C'est bien quand le monde constate que finalement, là, Christ règne. L'eau vive est là. Alors, je voulais vous laisser ces quelques pensées et j'ai découvert véritablement que, après, il y a le puits du serment, je crois, voilà. Quand Abimélec dit, c'est le monde, faisons un serment ensemble afin que nous puissions vivre à vos côtés. Mais quand le monde dit ça à l'Église, ce n'est pas pour qu'on soit comme le monde et qu'on vive comme le monde, mais que ce que nous portons, que les sources d'eau vive que nous avons en nous puissent aussi s'écouler dans le monde. Que ceux qui, dans nos familles, ne connaissent pas le Seigneur puissent dire, il y a quelque chose de vivant en toi. dis-moi donc, c'est quoi ? Je regarde le sourire de Dalila. Hein ? Vos filles ? Vos enfants ? Vos proches ? Comment les sources d'eau vive qui sont en vous peuvent étancher la soif de ceux qui sont dans ce monde, qui se disent, on va faire un serment, toi et moi. Il y a quelque chose en toi qui... On voit bien que Dieu est avec toi. C'est ce que dit Abimélec à Isaac. On voit bien. Donc, on va faire un serment pour plus faire la guerre. Et puis, peut-être profiter de ce que tu as en toi. Ces sources qu'il y a en toi me font envie. Que nous puissions creuser des puits dans nos vies. Rêvons d'être des Abraham, rêvons d'être des Jacob. Mais moi, en tout cas, j'ai découvert que je pouvais aussi rêver d'être un Isaac. Et vous ? Merci Seigneur pour ta grâce et pour ton Esprit Saint qui nous ouvre l'Écriture et qui nous montre qu'il y a des richesses en elle pour poser des fondements, des vérités, des choses essentielles. Par ton esprit, Seigneur, fais que nous osions la parole comme nous l'avons travaillé avec ces groupes œcuméniques, que nous osions ta parole dans nos vies, ta parole dans l'Église, qu'elle nous permette à la fois de réactiver toutes les vérités essentielles, les fondements d'hier, mais qu'elle nous permette de découvrir des fondements pour aujourd'hui, pour nos vies personnelles et pour l'Église. Nous voulons oser ta parole, oser ta vie. Que véritablement des sources d'eau vive coulent de notre sein. Étant ta grâce, Seigneur, le monde aspire à la révélation des enfants de Dieu. Donne-nous d'être responsables là aussi, face à ta parole. Amen.